Le journal, c'est vous, Sébastien Paour. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. Je ne vous ai pas menti sur les passeports. Je n'ai aucun secret sur qui que ce soit. Bref résumé de l'audition d'Alexandre Benalla au Sénat. L'ancien collaborateur de l'Élysée se contente du minimum. La commission d'enquête pointe invraisemblances et contradictions. Nous sommes sur place dès le début du journal. Convaincre les grands patrons étrangers d'investir en France, pas facile en pleine crise des gilets jaunes. Ils sont 150 avec Emmanuel Macron au château de Versailles en ce moment. Au sommaire également ce soir, le guide Michelin 2019, deux nouveaux 3 étoiles et 3 qui en perdent une. Les promesses de Theresa May aux députés, pas encore de plan B. Lucas Pouille en car à Melbourne, Amélie Mauresmo contente mais prudente, vous verrez. Et au téléphone sonne, Fabienne.
Et bien ce soir, on parle réforme du lycée, la fin des lettres L, E, S et S, la fin des chiffres aussi peut-être, puisque les mathématiques sont dans les options désormais. On va démêler ça ensemble. Quelles options, comment choisir, pour quels avantages. Les parents des élèves de seconde s'inquiètent. On va essayer de dédramatiser, d'expliquer tout ça aussi, voir si ce nouveau système et ce nouveau bac permettent une meilleure intégration dans les études supérieures. On n'oublie pas les autres filières aussi. Et tout ça se passera au 01 45 24 7000.
France Inter. Pas très bavard ce Benalla, nettement moins que la première fois qu'il a été entendu au Sénat. L'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron était donc de nouveau devant la commission d'enquête cet après-midi, auditionné cette fois, non pas sur les violences du 1er mai, mais sur ses passeports diplomatiques, utilisés après son départ de l'Élysée. Bonsoir Élodie Forêt.
Bonsoir.
Alexandre Benalla s'est plusieurs fois retranché derrière l'enquête judiciaire pour botter en touche.
Oui, au Sénat cet après-midi, Alexandre Benalla a joué au chat et à la souris, se retranchant, vous le dites, derrière cette excuse de l'information judiciaire.
La justice étant saisie des faits concernant les passeports au sens large, une information judiciaire étant ouverte et étant très respectueux des institutions, je répondrai aux questions des magistrats instructeurs.
Alexandre Benalla déterminé à ne rien lâcher et des sénateurs de plus en plus agacés à l'image du président de la commission, Philippe Bas.
Monsieur Benalla, permettez-moi de vous dire que ça n'est pas être très respectueux des institutions que de refuser de répondre aux questions qui vous sont posées. Vous avez une conception singulière de ce que c'est que le respect.
Agacé Philippe Bas, car après 2 heures, il y a toujours autant de zones d'ombre sur ces fameux passeports diplomatiques qui, selon Alexandre Benalla, lui auraient été restitués en octobre. L'ex-collaborateur de l'Élysée qui admet une unique erreur, celle de les avoir utilisés. Alexandre Benalla, bien loin, dit-il, des fantasmes qu'on lui prête.
Je ne détiens aucun secret sur qui que ce soit. Je ne fais aucun chantage. On essaye d'expliquer un certain nombre de dysfonctionnements de la part de l'État, mais il ne faut pas en déduire que tout ça est dû à un secret ou des secrets que je détiendrai. Je ne détiens aucun secret.
Une tirade qui n'aura pas convaincu l'Assemblée. Les sénateurs ressortent sur leur faim. Pour Philippe Bas, négligence des services de l'État ou protection, la question reste aujourd'hui posée.
Élodie Forêt en direct du Sénat avec Marcos Daras. Alexandre Benalla est mis en examen pour l'interpellation musclée du 1er mai et pour sa vingtaine de déplacements, notamment en Afrique, avec ses fameux passeports diplomatiques.
Et Emmanuel Macron remet les petits plats dans les grands pour les patrons.
Un déjeuner avec le Premier ministre, un dîner au château avec le président. Ils sont 150 venus des quatre coins de la planète et parfois sur la route de Davos, invités à Versailles pour choisir la France et les convaincre d'investir dans l'Hexagone. Malgré les gilets jaunes et les images de l'Arc de Triomphe, notamment saccagées, qui ont fait le tour du monde. Bonsoir Hélène Philly.
Bonsoir Sébastien.
Est-ce que la crise, Hélène, a un impact sur les investissements étrangers ?
Eh bien finalement ici les patrons ne sont pas vraiment inquiets. Sébastien Gendron dirige Transpod, une start-up canadienne qui développe des technologies pour le transport très grande vitesse, l'Hyperloop. Et selon lui, il y a bien plus dissuasif que les gilets jaunes.
Quand je regarde ne serait-ce que nos voisins britanniques, je pense que la problématique de sortir de l'UE est bien plus grave que la crise des gilets jaunes. Même aux États-Unis, qui est juste de l'autre côté de la frontière, la politique de Trump, qui est très isolationniste, donne pas forcément envie d'investir au-delà des valeurs qu'on partage pas forcément avec Monsieur Trump.
L'investissement en France, c'est sur du temps long. Il n'y aura pas de contrat mirobolant annoncé aujourd'hui, mais tout de même 350 millions d'euros d'investissement du chinois Micropore pour la fabrication de pacemakers à Clamart, de nouvelles lignes de fabrication du biscuit Mikado en Gironde. L'essentiel pour le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, c'est l'emploi. Et ça répond à la préoccupation des gilets jaunes.
Il me semble que ce que souhaitent les milliers de Français qui ont manifesté, c'est d'abord d'avoir du travail. Et ce travail qui paye, il ne se trouve pas comme ça sous le pas d'un cheval. Il faut des investissements, il faut des entreprises qui viennent. Vous ne pouvez pas réussir si vous n'attirez pas à vous des investissements étrangers.
Microsoft, IBM, Adecco promettent la création de plusieurs centaines d'emplois cette année. Ils attendent en échange stabilité fiscale et l'assurance de la poursuite des réformes.
Hélène Filly en direct de Versailles avec Thibault Nassine-Ben. Et comme pour dire à ces entreprises, venez en France, mais on vous a à l'œil. La CNIL annonce une amende record de 50 millions d'euros à Google pour la manière dont le géant américain traite les données personnelles de ses utilisateurs. C'est la première fois qu'une instance de régulation européenne sanctionne ainsi l'un des GAFA avec le nouveau RGPD, le règlement européen de la protection des données qui est entré en vigueur au mois de mai. Décidément, ce 21 janvier est lourd en symbole. Emmanuel Macron fait son opération séduction auprès des patrons à Versailles, exactement 226 ans après la mort de Louis XVI, guillotiné le 21 janvier 1793. Et voilà qu'on apprend la mort du comte de Paris, Henri d'Orléans, descendant du dernier roi en France, Louis-Philippe Ier, et du frère de Louis XIV. Alors, date maudite pour la monarchie. Voyons ce qu'en dit Stéphane Bern, qui s'y connaît en tête couronnée.
Il y a une sorte d'ironie dans sa destinée de mourir un 21 janvier, alors que le comte de Paris, chaque année, faisait dire une messe le 21 janvier à Saint-Germain-l'Auxerrois, à la mémoire de Louis XVI, son illustre aïeul, pour lequel d'ailleurs son aïeul, Philippe Égalité, avait voté la mort. C'était un prince chrétien qui avait le sens du sacré, qui le guidait d'ailleurs dans sa mission, mais c'est un homme qui avait été écrasé par la personnalité de son père, feu le comte de Paris. Du jour au lendemain, son père lui avait coupé les vivres. On l'avait pas préparé à exercer un métier. Il a dû trouver un métier alors que son nom pouvait ouvrir quelques portes, mais pas celle du business. Je l'ai toujours vu vivre assez chichement. Il vendait régulièrement des toiles qu'il peignait. C'est un homme qui était quand même en souffrance, mais c'est un homme qui était profondément bon. À la fois obsédé par son rang, sa position et puis d'une grande simplicité.
Stéphane Bern avec Sébastien Sabiron, le nouveau prétendant au trône de France et désormais le fils d'Henri d'Orléans, Jean, duc de Vendôme. Les grands groupes font donc escale à Versailles en allant au forum de Davos et en les attendant. Demain, le FMI, déjà sur place, interpelle les dirigeants politiques sur le mécontentement dans la société. Ils doivent s'en occuper et non attendre une escalade des risques, selon la chef économiste du Fonds monétaire international. Emmanuel Macron appréciera, lui dont le grand débat se poursuit avec les contributions sur le site officiel, vos questions et vos avis sur les quatre thèmes choisis par l'Élysée. Certains gilets jaunes refusent d'y participer, mais d'autres ont réfléchi et ont un projet, comme Carole, la cinquantaine, que Mathilde Dehimy a rencontrée dans le Gers.
Carole n'endort plus la nuit.
Je suis couchée à 2h du matin, parce que je voulais que ce soit un dossier complet pour le présenter.
Son projet, elle travaille dessus depuis 2 semaines. Elle a revu les tranches d'impôts, réfléchi aux écarts de salaire, et contrairement à d'autres gilets jaunes, elle ne veut pas d'augmentation du SMIC.
Ça va coûter plus cher aux petits patrons qui ne pourront pas fatalement augmenter le salaire des gens. Je trouve qu'il vaut mieux passer par l'État et créer le fameux revenu universel.
Carole a tout expliqué à son fils Kevin. Ils ont cherché ensemble des données officielles pour calculer au mieux un nouveau jeu organisé par l'État.
Un jeu à 50 centimes style My Million, c'est un impôt volontaire.
Avec ce jeu, l'État gagne 50 000 euros en fait, chaque jour. Et chaque jour, 9 personnes de la France gagnent 50 000 euros. Donc c'est un premier moyen pour gagner de l'argent et pour pouvoir redistribuer plus facilement.
40 pages de réflexion et de chiffres pour plus d'équité et de solidarité. Dit Carole, 600 euros de salaire par mois.
Non, je ne fais pas de politique et je ne veux pas en faire, mais j'aimerais pouvoir parler aux gens politiques. C'est vrai, j'aimerais.
C'est pour ça que
Facebook, en fait, la pétition, là, elle a marché. Parce qu'à qui on parle ? Mais à personne, on ne nous écoute pas.
Carole va répondre à toutes les questions du site officiel granddebat.fr. Sur chaque dossier, elle déposera ses solutions en espérant avoir un jour une réponse. Marciac, Mathilde Dehimy, France Inter.
Les retraités, souvent sur les ronds-points avec les gilets jaunes, seront sûrement intéressés par ce document transmis aux partenaires sociaux par Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire à la réforme des retraites, qui veut maintenir l'âge de départ minimal à 62 ans et propose une surcote pour ceux qui partiront après de 3 à 5% par année supplémentaire. Un document qu'a vu et qui inquiète Philippe Pillet, le négociateur de la réforme pour Force ouvrière.
Pour la première fois, il est écrit aujourd'hui que pour l'immense majorité des salariés de ce pays, la réforme entraînera le fait qu'ils devront rester plus longtemps au travail s'ils veulent le même niveau de retraite. Alors bien évidemment, c'est pas écrit comme ça. On parle techniquement de taux de remplacement, c'est-à-dire le rapport entre sa dernière paye et sa première retraite. Mais ce qui est écrit en toutes lettres, c'est que pour les personnes qui ont des carrières dites ascendantes, c'est-à-dire l'immense majorité des salariés de ce pays, qu'ils soient du public comme du privé, il faudra qu'ils restent au-delà de ce qu'ils avaient prévu aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils restent au-delà de 62 ans. Là, c'est pas Force ouvrière qui le dit, c'est l'équipe du haut-commissaire à la réforme de la retraite. C'est clairement dit, la retraite pénalisera une grande majorité de salariés.
Philippe Pillet, le négociateur de la réforme des retraites pour FO, joint par Manuel Ruffez.
Quand l'un des plus célèbres guides gastronomiques fait sa petite révolution.
Le guide Michelin qui retire leur troisième étoile à trois grands chefs, Marc Véran en Haute-Savoie, Pascal Barbeau à Paris et Marc Eberlin en Alsace, trois étoiles depuis 51 ans. Le Michelin qui fait réapparaître dans son guide la Véronais Sébastien Bras avec deux étoiles, alors que cet ex-trois étoiles avait pourtant demandé à le quitter. Et le Michelin, bonsoir Rémi Brancato.
Bonsoir.
Qui fait entrer plusieurs femmes dans sa liste d'étoilées.
Oui, jamais autant de femmes n'ont été promues au guide Michelin. Elles sont 11 à décrocher une étoile ou bien à en décrocher une de plus. Voilà qui montre que ces carrières leur sont désormais ouvertes. C'est ce qu'a souligné durant la cérémonie ici, Salle Gaveau à Paris, le nouveau directeur international du guide, Gwendal Poulenec. Et parmi ces femmes, il y a Stéphanie Lekelec, la seule aujourd'hui qui a reçu une deuxième étoile sur sa veste de chef du restaurant La Seine à Paris.
Je suis très heureuse de prendre une deuxième étoile l'année où il y a autant de femmes qui émergent. Je pense aussi être l'exemple qu'on peut concilier sa vie de famille. Voilà, je suis mariée, j'ai trois enfants et pour autant, je passe 15 heures par jour dans ma cuisine et j'y prends toujours autant de plaisir. Donc le message est fort aujourd'hui de dire voilà, on peut être femme, on peut avoir une vie de famille, s'accomplir et puis pour autant faire la cuisine à un beau niveau.
Avoir un niveau extraordinaire, elle devra sans doute cuisiner quelques riz de veau cette semaine, une de ses spécialités. Et puis vous l'avez dit, le Michelin retire des cours. Cette année, trois chefs perdent leur troisième étoile, mais deux décrochent ce Graal. Mauro Colagreco, le chef argentin de Menton, et Laurent Petit, le chef du Clos d'Essence à Annecy, un chef qui a choisi de faire la part belle aux légumes et aux produits locaux, comme un symbole de ce vent nouveau qui souffle sur le Michelin, qui a d'ailleurs remis trois nouveaux prix, un prix du meilleur sommelier, du meilleur service et un prix, tiens, de la gastronomie durable, qui revient au chef Christophe Coutenceau à La Rochelle.
Benjamin Thuot, salle Gaveau à Paris avec Rémi Brancato. Merci à tous les deux. Le Clos d'Essence est à Annecy-le-Vieux. En Alsace, on reparle de Stocamine, le seul site français de stockage souterrain de déchets toxiques. Ouvert en 99, fermé trois ans plus tard après un incendie. 42 000 tonnes de déchets sont toujours enfouis, Patrick Janton, mais l'État renonce à les retirer.
Les 42 000 tonnes de déchets ultimes resteront bien au fond de ces galeries de mines creusées pour un stockage qui devait être a priori réversible mais qui ne le sera pas. La décision a été officiellement annoncée ce matin par le ministre de la Transition écologique aux grand dam des écologistes, des élus locaux et des parlementaires qui avaient récemment sorti un rapport sur la nécessité d'extraire ces déchets. Raphaël Schellenberger, député LR du Haut-Rhin.
Tout ça s'est balayé d'un revers de la main par le ministre et qui finalement conclut à ce que personne n'avait dit, notamment dans nos travaux parlementaires, c'est que cette décision, elle est uniquement financière.
Selon le préfet, ce n'est pas l'aspect financier qui a été déterminant, mais les risques encourus pour mener à bien la sortie des déchets dans des galeries de mines qui s'effondrent. Laurent Touvet, le préfet du Haut-Rhin.
Les éléments financiers, évidemment, ils interviennent dans une décision publique, mais ici, ils ne sont pas du tout déterminants. C'est plutôt la balance des risques qui est analysée et le risque de déstockage est nettement plus important que le risque lié au maintien de déchets au fond et à leur diffusion dans un horizon très éloigné et dans des proportions très faibles vers la nappe phréatique.
Les collectivités et les associations souhaitent maintenant porter l'affaire devant la justice administrative, mais sans se faire beaucoup d'illusions.
Deux mois et demi que les immeubles de la rue d'Aubagne se sont effondrés à Marseille, 8 morts et seulement 500 des quelques 2000 personnes évacuées relogées. Chiffre que le maire Jean-Claude Gaudin a eu du mal à donner aujourd'hui. Décidément, son ultime mandat sera empoisonné par cette question des immeubles insalubres. Tout cela alors que le ministre de la Ville et du Logement, Julien de Normandie, visitait Olivier Martoc en grande pompe, une des sinistrées aujourd'hui.
Le scénario est toujours le même. Les services ont balisé le terrain en amont, l'appartement refait dans un bel immeuble du centre-ville, des caméras, des photographes et des micros pour immortaliser la scène, un échange entre le ministre et la sinistrée, redevenue locataire heureuse.
Enfin, ça va pouvoir être une solution qui vous permet de voir de manière un peu plus éclaircie les prochains jours qu'auparavant.
Parce que là, pendant deux mois, ça a été galère.
Bon, et ici, vous connaissez bien la rue de la République.
Non, ça va, ici, ça va.
Ça va.
Mais derrière, il y a une autre réalité, la confusion, la pagaille. À l'image du maire qui annonce ce matin 1000 personnes relogées dans des appartements, un nombre divisé par deux dans l'après-midi, sans parler de tous ceux qui ne rentrent pas dans les cases, comme Anaïs Bérubé, copropriétaire dans un des 234 immeubles évacués de la ville. Depuis 2 mois, elle attend l'arrêté de mise en péril et le passage de l'expert.
On se reloge par nos propres moyens, donc on prend un Airbnb, on n'a pas d'autre solution. On n'est pas chez nous, on n'a rien, on n'a plus notre vie, puis on attend au jour le jour, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas si un jour on pourra retourner chez nous. Non, c'est dur.
Voilà pour l'envers du décor, des témoignages comme celui-là, il y en a des dizaines. Julien de Normandie va rencontrer ce soir en tête à tête les associations qui suivent ces dossiers. La vraie conférence et les annonces sont vraisemblablement pour demain. Marseille. Olivier Martoc, France Inter.
Elle aussi pourrait être expulsée, exclue de La République En Marche. La députée Agnès Thil, opposée à l'extension de la PMA, est déjà mise en garde par la majorité pour certains propos, comme l'absence de genre dans le mot « parent » favorise l'éclosion d'écoles coraniques. Elle a toute sa place dans le groupe, assurait ce matin sur Inter le patron de la majorité à l'Assemblée, Gilles Legendre. Ce n'est pas l'avis d'une trentaine de députés LaREM qui viennent de lui écrire, comme Aurélien Taché, élu du Val d'Oise, joint par Laurence Perron.
Moi, j'ai pas de difficulté à ce que dans le groupe, il y ait des collègues qui soient opposés à la PMA, mais il faut d'abord reconnaître une chose, c'est qu'ils sont minoritaires, et deux, que cette opposition doit respecter un certain nombre de principes qui doivent être conformes à ceux d'un groupe progressiste. On peut être opposé à la PMA et être à La République En Marche, à condition qu'on soit bien respectueux et qu'on n'essentialise pas des pans entiers de la population, que ce soit nos concitoyens de confession musulmane, de dire que ça les conduit en plus à tous se réfugier dans des écoles coraniques et à construire un système parallèle à La République, c'est le mot qui est employé. On a même une forme de presque complotisme dans des propos comme cela, comme Agnès Thil les avait déjà tenus avec sa croyance d'un lobby LGBT à l'Assemblée nationale. Bon, moi je pense que là on franchit des lignes qui sont difficilement acceptables pour un mouvement et un groupe qui se dit progressiste.
L'ambassadrice d'Italie convoquée au Quai d'Orsay.
Après les propos du vice-président du Conseil italien, Luigi Di Maio, hier, qui accuse la France d'appauvrir l'Afrique et d'aggraver la crise migratoire, propos inacceptables pour Paris. Pas vraiment de plan B pour Theresa May, la première ministre britannique tente de convaincre les députés après le rejet de son accord de Brexit négocié avec Bruxelles. Bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir.
Elle leur promet qu'elle sera plus à l'écoute.
Oui, elle essaye de rassurer la gauche, Theresa May. Le statut des travailleurs, dit-elle, ne changera pas après le Brexit et les frais de dossier nécessaires aux expatriés vont être annulés. Mais pour le reste, pas de grandes modifications. La première ministre propose simplement aux députés de déposer des amendements tout en écartant les solutions radicales comme une sortie sans aucun accord ou un deuxième référendum.
Je ne crois pas qu'il y ait une majorité de députés qui soutiennent ce scénario au Parlement. Et je ne peux pas non plus soutenir la seule autre solution qui permettrait d'éviter une sortie sans accord et qui consiste à annuler le Brexit. Alors je continue de me concentrer sur ce qui est nécessaire pour qu'on arrive à un consensus et un accord avec l'Union européenne.
Pour trouver une issue à la crise, Theresa May compte donc sur l'Union européenne. Elle veut rouvrir les discussions sur le backstop, le filet de sécurité censé permettre d'éviter le retour d'un mur entre l'Irlande du Nord et le sud de l'île. Ce sera difficile. Bruxelles refuse de relancer les négociations sur le sujet. Et sur place, à la frontière, la tension monte après l'explosion samedi d'une voiture piégée à Londonderry. 3 hommes masqués ont volé cet après-midi une camionnette avant de l'abandonner avec un colis suspect à l'intérieur.
Antoine Gignot en direct de Londres. Merci. Saison terminée pour Jean-Baptiste Grange, le double champion du monde de slalom. Blessé hier en Suisse, souffre d'une rupture du ligament croisé. L'opération implique au moins 6 mois d'arrêt. Ce sera son premier quart de finale en Grand Chelem. À lui, depuis plus de 2 ans, Lucas Pouille affrontera le Canadien Milos Raonic pour une place dans le dernier carré de l'Open d'Australie. Le dernier Français en lice a battu le Croate Borna Koric en 4-7. Peut-être les premiers effets de sa nouvelle entraîneuse depuis novembre, Amélie Mauresmo, ici au micro de Fabrice Abgral.
Je suis content pour lui, tout d'abord, voilà, avant tout, c'est évident qu'il était un peu en galère et surtout en manque de motivation. Donc voilà, donc à partir du moment où il reprend le fil, le fait que ça paye là, dès l'Open d'Australie, c'est énorme parce qu'il fait les efforts depuis qu'il a repris et que ça paye tout de suite, pour lui, c'est un truc énorme. Après, il y a encore du travail, il y a encore des choses à mettre en place et surtout, je pense qu'il y a aussi, il peut aller encore plus loin, mais on va voir, tranquille, chaque chose en son temps.
Qualification aussi, mais dans la douleur de Novak Djokovic chez les femmes, Serena Williams élimine la numéro 1 mondiale, Simona Alleps, Amélie Mauresmo, disait quelque chose, chaque chose en son temps, et bien c'est aussi ce qui se passe pour Yann Guichard, même si son équipage marche plutôt bien pour l'instant dans sa tentative de battre le record du trophée Jules Verne, le Tour du Monde à la voile. Les 12 marins ont passé l'équateur aujourd'hui avec près d'un jour d'avance sur le temps de Francis Joyon, 40 jours et 23 heures.
Allez, Sébastien Paour pour le journal. Merci beaucoup Sébastien, on se retrouve demain, le téléphone sonne, commence dans un instant. Merci de passer la soirée avec nous et surtout, ne changez rien.